prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, aujourd'hui même, tu seras avec moi.
Bien, alors Évangile de Luc, dans le chapitre 23, s'il vous plaît, chapitre 23, et au verset 33, il s'agit naturellement, eh bien, la circonstance, sujet essentiel, le cœur même de l'Évangile, c'est-à-dire la croix. Nous sommes, eh bien, dans cette réflexion ce soir. Et voilà ce que nous allons partager, ce que nous allons méditer ensemble. Il s'agit de la passion, c'est comme ça qu'on l'appelle, la passion du Christ. Et l'enseignement qui s'accorde, donc, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des rois ou le roi des juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était environ déjà la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure, le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Voilà pour la situation, la méditation que nous allons partager ensemble. Nous voyons que ce chemin de la passion de Jésus a été étape par étape. Et nous nous trouvons là au moment, l'ultime moment où il va être crucifié, il va être exposé, eh bien tout simplement à la mort. La condamnation a été prononcée, le jugement, la condamnation, et voilà l'exécution. Et le texte de Luc nous rappelle tout simplement, il nous dit, mais lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, c'est-à-dire tout simplement, eh bien ce que nous disons dans la Bible, appelé d'une autre manière, le mot Golgotha. En grec, crânion, ça c'est la version grecque, et en latin, calvaria, donc tout simplement le calvaire. Mais bon, le mot qui est donné ici, c'est le mot crâne. Et puis voilà que nous lisons cette suite où il est dit simplement, ils le crucifièrent là. C'était pas un autre endroit, c'était à cet endroit-là précisément. Et voilà que ce sont trois mots qui qualifie le forfait le plus abominable, et l'injustice la plus flagrante qui soit, dans cet endroit précis, dans la ville de Jérusalem, exposée à la vue de tous, hein, sur ce mont, sur ce monticule, cette petite colline. Et vous avez remarqué avec moi, il nous est simplement rappelé également qu'il n'était pas tout seul, il y avait deux malfaiteurs, ce qui souligne, Jésus est au milieu, un à gauche, l'autre à droite, ce qui souligne d'autant plus cette iniquité, cette abomination, cette injustice entre deux malfaiteurs. Et Jésus, dans la Bible, nous est présenté comme le bienfaiteur de Dieu. Et je crois que tout cela, eh bien, est pour souligner son innocence, sa sainteté. Et les choses ne sont pas dites comme cela, elles sont marquées, elles sont soulignées. Et nous voyons qu'il y a un sens à tout cela, nous allons le découvrir au fur et à mesure, dans l'attitude, dans le comportement, les réactions, la réactivité des hommes, de tous ceux qui sont finalement, comme je l'ai lu tout à l'heure, qui assistaient en foule à ce spectacle, comme si la mort d'un homme était un spectacle. Mais on était venu pour un spectacle. Je crois qu'on venait aussi voir le spectacle lorsque Jésus guérissait, lorsqu'il ressuscitait, lorsqu'il changeait l'eau en vin, lorsqu'il faisait toutes sortes de choses. Il semblerait que c'était toujours la même chose. Hein. C'est comme si on venait voir des... comme s'il y avait une curiosité. Et là, c'est le spectacle de la mort. Hein. Et on voit que les gens qui l'avaient suivi, probablement certains, peut-être une foule, qui l'avaient connu dans d'autres situations et qui s'étaient émerveillés, étaient aussi à ce spectacle pour le voir mourir. C'est quelque chose d'abominable, comme si les hommes... n'était pas satisfait, n'était pas contenté. Hein, il avait besoin de se rassasier encore de choses terribles, de choses mauvaises. Et vous savez, le monde n'a pas changé aujourd'hui. On est rassasié hein, d'images, hein, de spectacles, hein, de toutes sortes de choses qui nous sont envoyées comme cela et dont nous regardons. Hein, on ne regarde pas avec complaisance. Hein. Mais je veux dire que c'est tout autour de nous. Alors, comme c'est certainement loin de nous, on n'y fait peut-être pas trop attention. Hein, spectacle de la désolation à Haïti, ou je ne sais quel état de guerre dans une partie du monde. Alors on voit ça de loin, naturellement, on voit ça à travers la petite fenêtre. Mais néanmoins, il y en a qui le voient certainement de plus près. Et on s'aperçoit que finalement, eh bien, il y a toute une industrie derrière. Il y a tout un commerce, il y a toute une... je ne sais pas moi... que l'on pourrait dire autour de tout cela, mais finalement, on n'est jamais rassasié de ce genre de choses. Alors, Jésus va parler, lui qui est toujours resté silencieux, vous savez, devant Caïphe, devant Pilate, il n'a rien dit, ou pas dit grand-chose, mais là, il va parler. Et il ne va pas parler pour lui, il ne va pas prier pour ses disciples seulement, mais il va prier pour tous ceux qui sont autour de lui. Et moi, je crois que dans cette prière qui suit, ça fait partie une des sept paroles de la croix. Et dans ce verset, il nous est dit que Jésus a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Une prière, on peut le dire de cette manière, en faveur de tous ces aveugles, moraux et spirituels, qui sont en train de commettre un crime, une chose horrible, et qui pensent croire que ce qu'ils font, ils le savent. C'est ça justement ce qui est étonnant. Et ils le font pour des raisons religieuses. Ils le font avec une bonne conscience en disant « mais cet homme, depuis 3 ans, ça suffit. Il est venu bouleverser un peu... nos états, le statu quo, tout cela, eh bien, il mérite la mort. D'ailleurs, il n'y a aucune voix qui s'est élevée lorsque le jugement est tombé. Hein, sinon, peut-être quelques réticences, quelques frémissements de réticence chez Pilate, en disant, mais je n'ai rien trouvé de mal chez cet homme. Et pourtant, il va le condamner quand même. Il a le pouvoir de l'absoudre. Et même, les choses vont être poussées beaucoup plus loin, puisque la foule va tellement crier la libération de Barabbas, le malfaiteur, pour livrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a appelé le bienfaiteur de Dieu et le bienfaiteur des hommes, mais ça on ne le sait pas. Alors, ces hommes avec une bonne conscience vont continuer leur œuvre. Une œuvre de folie, une œuvre criminelle, meurtrière, et Jésus pourtant va prier pour eux. Il va le dire simplement, il va se tourner, il va dire « Père, eh bien moi je te demande de leur pardonner. Et c'est une prière universelle, elle est très courte, hein, vous avez remarqué, mais elle court, cette prière, encore jusqu'à nous. Elle est encore à notre bénéfice, à notre profit, nous, également, lorsque nous lisons ces choses. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Dans la circonstance, c'est sûr qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et pourtant, néanmoins, ils accomplissaient le plan de Dieu. C'est paradoxal. Hein. Et ils étaient remplis, et nous allons le voir dans tout ce déroulement du texte, nous allons voir qu'il y a une charge de colère, une charge d'inimitié contre Jésus. On va voir le comportement des uns et des autres qui se succèdent. Ils sont divers, ces comportements, mais ils sont remplis d'une animosité, de quelque chose de profondément mauvais. Vous savez que quelques jours auparavant, eh bien, c'est peut-être même ces mêmes gens, enfin les gens de la foule en tous les cas, qui vont crier dans les rues de Jérusalem « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » et qui vont se dépouiller de leurs vêtements, les mettre sur la route, couper des branchages pour accueillir finalement eh bien, celui qu'ils proclament le roi. Et les choses se retournent très, très rapidement puisqu'il suffit de quelques heures et voilà que cette même foule eh bien, va finalement dire le contraire. Crucifie, crucifie-le et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, ce qui ne manquera pas d'arriver quelque temps après. Alors, si nous revenons à cette parole, à cette prière toute simple, pardonne-leur. Et je crois que nous sommes même au cœur de l'Évangile. Et cette parole n'est venue dans la bouche de Jésus et montée vers le ciel qu'à cet instant, alors qu'il était crucifié, là, Jésus aurait pu la donner précédemment, dans ses discours. Il a parlé de pardon, naturellement. Enfin, c'est la confirmation suprême, en tous les cas, de tous ses enseignements sur le pardon. Et lui, qui était atteint au plus profond de sa chair, de son corps, de son âme, eh bien, c'est là où il va prononcer cette parole extraordinaire, parce que c'est la parole de la réconciliation, c'est la parole de la grâce, c'est la parole de l'alliance. Pardonne-leur. Et d'ajouter simplement, et nous l'avons lu, et nous l'avons vu il y a un instant, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne prennent pas la mesure. Ils n'évaluent pas la portée de ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a bien des choses dans notre humanité d'aujourd'hui où les gens ne savent pas ce qu'ils font. À travers toutes sortes de comportements, à travers toutes sortes d'options, toutes sortes d'orientations, toutes sortes de directions qu'ils prennent. Et pourtant, tous ces gens-là, que nous ne connaissons pas, nous-mêmes, auparavant, eh bien, nous avons été au bénéfice. Et je crois qu'on peut vraiment sincèrement bénir le Seigneur. Si nous sommes là ce soir, si nous sommes là dans la lecture et la méditation de la parole, si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous sommes au bénéfice de cette prière. Dieu nous a pardonné. Et il y a bien des situations où nous ne savions pas ce que nous faisions, mais la prière était là. Et à ce moment-là, vous remarquez avec moi, ils se sont partagés ses vêtements en tirant au sort. Il y a quelque chose de dramatique dans la manière de ce partage. Comme on partage une dépouille, il n'est pas mort encore. Comme on est en train de tirer le meilleur parti, finalement, de ce qui peut rester d'un pauvre homme, d'un condamné, et là, plus encore, d'un crucifié. Ils se sont partagés ces vêtements pour montrer un petit peu cette avidité. On veut une part. On veut quelque chose de cet homme que l'on appelle Jésus. Peut-être l'Église, plus tard, fera de ses vêtements et de tous ces malheureux attributs là, vestimentaires de Jésus, eh bien, quelque part, peut-être des objets de dévotion. Alors, ça valait vraiment pas la peine. Hein. Vous connaissez l'histoire du suaire de Turin et de tout ce que l'on a dit autour de cela. Ça fait 2000 ans qu'on est en train de se poser la question, naturellement. Mais enfin, bon, je veux dire qu'on veut une part, mais est-ce la bonne part? Est-ce la part réelle? Parce que c'était certainement pas ça ce que Jésus était venu donner aux hommes. Alors, ils se sont partagés ces vêtements, et puis d'une manière tellement fantaisiste, en tirant au sort. Voilà. Qui aurait la chance ou la bonne étoile de tirer finalement eh bien, ce qu'il pouvait y avoir de meilleur. Mais il passe à côté, hein, naturellement. Et nous avons derrière tout cela ce comportement, cette avidité, cette méchanceté, cette colère dont nous avons parlé il y a un instant. Nous voyons que le peuple est en arrière-plan, mais il n'est pas loin. Hein. Il est probablement très nombreux. Et vous remarquerez avec moi, il nous est simplement dit que le peuple se tenait là. Toujours les mêmes mots. Ils le crucifièrent là. Et ils se tenaient là. Et ils regardaient. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez déconcertant dans cette attitude qu'il y a chez ces gens qui sont à regarder, tous ces yeux qui sont tournés là, au sommet de la colline, en train de regarder ces trois hommes, particulièrement celui du milieu, parce qu'on s'interroge. On se dit, mais comment en est-il arrivé là? Il est arrivé là parce qu'on a bien voulu qu'il soit là. Mais on ne comprend pas, on n'arrive pas à faire l'analyse, l'association de cet homme qui se trouve pendu sur ce bois, alors que on a tellement entendu parler de lui. On a tellement vu de choses extraordinaires sortir de sa bouche, enfin entendre, et sortir de sa bouche et de ses mains. Et puis de la manière dont il s'est comporté. Alors, il se tient là, il regarde, comme hébété, comme sans réflexion. Il est absent, il est ailleurs, et il ne dit rien. Quant au magistrat, eh bien, il se moque de Jésus, c'est toujours les mêmes. Parce que leur seul moyen, c'est, pensant qu'il prenait de la hauteur et du mépris pour Jésus, alors la manière la plus facile, peut-être, c'est pas de faire du mal ouvertement et d'écraser. Ils sont en train de le crucifier, parce que c'est eux quand même. Mais ils ajoutent un petit peu à la perfidie de leur cœur et à la sottise, finalement, de leur comportement, et bien la moquerie. Parce que ça fait bien, peut-être, de se moquer. Se moquer de quelqu'un qui a les mains attachées, les pieds attachés, qu'est-ce que vous voulez? Qui est là, complètement plaqué sur une croix, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il peut répondre? Qu'est-ce qu'ils peuvent répondre, ces hommes? Alors ils se moquent. Ils se moquent de Jésus. Et ils disent en substance, parce qu'ils ne sont pas fous, ils disent la vérité quelque part. Il a sauvé les autres. Donc, il y a quelque chose qui sort de leur bouche et qui, quelque part, eh bien, est quelque part prophétique. Prophétique parce que c'est une réalisation et prophétique parce que ça se continuera aussi, ce salut. Alors, il a sauvé les autres et avec ce mépris que l'on peut attaché à ses paroles alors qu'il se sauve lui-même. Ben oui, parce que alors à ce moment-là, nous allons avoir la preuve qu'il est le sauveur. Il se prétend le sauveur, il se prétend le fils de Dieu, il se prétend le Messie, notre Messie, nous les Juifs. Alors, s'il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Et ils ajouteront, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Il faut bien comprendre que ce sont les Juifs qui parlent. S'il est le Christ. Ah, vous savez, c'est si et s'il, ça rappelle quelque chose qui est employé dans un autre temps à l'égard de la personne de Jésus, 3 ans auparavant, dans la tentation du désert. C'est le diable. Si tu es le Fils de Dieu. Alors à ce moment-là, tu fais de ces pierres des pains. Et puis tu peux sauter du haut du temps. Vous savez, c'est toujours ce conditionnel, ce sous-entendu, c'est quelque chose qui est perfide. Est-ce que Dieu aurait réellement dit? Vous voyez, c'est toujours quelque chose d'assez nébuleux, assez insaisissable, mais qui met la confusion dans les esprits, dans les cœurs, dans les consciences. S'il est le Fils de Dieu, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Alors, tout cela traduit naturellement un impossible doute chez eux. Et ils le mettent sous la forme de la moquerie, du mépris, du rejet, tout simplement. Quant aux soldats, eh bien, ils se moquent aussi. Et il s'approche et lui présente du vinaigre. Et là, c'est intéressant, parce qu'à propos de vinaigre, paraît-il que c'était un mélange que l'on donnait aux condamnés pour peut-être ce breuvage anesthésiant pour calmer un peu les douleurs, c'est ce que j'ai lu dans les commentaires. Mais ce n'est pas ça ce que je veux dire. À propos de ce vinaigre apporté aux condamnés, que l'on va mettre, il paraît, au bout d'une branche et on va essayer de d'humecter ses lèvres pour essayer de le soulager. Je crois que c'est l'illustration de toute cette assistance égarée qui est en train de vociférer contre Jésus, qui est en train de donner libre cours à son mauvais cœur, à sa perfidie, à tout ce qu'il peut y avoir de plus abominable dans le cœur, de plus sordide dans le cœur humain. Parce que qu'est-ce que c'est que d'apporter finalement à Jésus en la circonstance, non pas seulement le vinaigre, mais il est une illustration. Le vinaigre, l'illustration des cœurs remplis d'animosité. Parce que l'animosité, c'est du vinaigre, c'est du nitre. C'est des cœurs remplis de rancune, de jalousie, de mécontentement. Et si vous voulez peut-être faire l'association, des cœurs remplis d'aigreur, du vin aigre. Et ce sont tous ces gens-là qui sont à Golgotha. Ce sont tous ces gens-là qui sont autour de la croix. Et ce qui les anime, c'est un esprit mauvais. C'est un esprit de rejet. Ce n'est pas l'esprit de l'amour, c'est l'esprit de la haine. Et ils n'ont pas de raison d'être remplis de haine. Lui qui n'a toujours fait que du bien, dont les paroles ineffables, eh bien, ont consolé, ont guéri, ont transformé des vies, ont donné une espérance d'éternité. Et voilà qu'ils sont tous ramassés, là. Mais dans cette population qui est à Golgotha, c'est la population des hommes d'hier, d'aujourd'hui et de demain, quelque part. Et moi, j'ai trouvé que cette pensée de vinaigre, c'est vraiment les cœurs, le cœur humain qui est rempli d'aigreur. Pourquoi serait-il aigre le cœur de l'homme contre son sauveur, contre son créateur? C'est parce qu'il a des choses à régler. Parce que tant que les choses ne sont pas réglées, l'homme est aigre. C'est la manière de Caïn. Vous savez que Caïn avait aussi de l'aigreur contre Abel. Et pourtant Abel n'avait jamais rien fait. Mais je ne sais pas, c'est comme une inimitié. Et l'inimitié, vous savez ce que ça veut dire? C'est cette forme de ressentiment, de haine pour des causes qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas seulement le propre de l'homme qui recueille ses sentiments, qui accepte ses sentiments, qui nourrit ce sentiment, mais ce cœur qui est inspiré d'ailleurs, de plus haut, par des esprits de méchanceté, de querelle et de dispute. Donc on lui donne du vinaigre. Et Jésus, qu'est-ce qu'il contemple? Eh bien, il contemple autour de lui finalement des cœurs qui sont remplis d'aigreur. Vous savez qu'il y a cette interpellation dans le livre des Hébreux, je retrouve ce texte, il nous est dit « Recherchez la paix avec tous ». Alors, dans ces instants de Golgotha, dans ces quelques heures qui sont là, qui défilent devant nous, que nous sommes en train de commenter, en tous les cas, on ne recherchait pas la paix. Où voulait-on la paix, mais sans Jésus? Voulait-on la paix en Israël, mais en mettant dehors celui qui était le prince de la paix? Et le texte nous dit « Mais recherchez la paix avec tous ». Et la sanctification, car personne ne verra le Seigneur. Et il est ajouté ceci, pour revenir à cette aigreur, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Pourtant, Jésus était là, au milieu des hommes. La grâce de Dieu était répandue. Le salut de Dieu était parvenu dans sa totalité, dans son accomplissement parfait, puisque ça fait partie aussi des sept paroles de la croix. Tout est accompli. Et nous voyons que, quelque part, eh bien, cette grâce qui était dispensée, personne ne l'a compris comme telle. Alors, il nous est simplement rappelé de veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, parce que, ou en raison d'eux, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et voilà le problème. Le problème, il est dans un état de cœur, un état de révolte, un état de contestation, un état de rébellion, de révolution, qui faisait que ce vinaigre, symbole de ce que Jésus pouvait voir autour de lui, il y avait quelque chose qui était profondément mauvais. Et c'était précisément pour ce genre de cœur-là que Jésus mourait. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils pratiquent, la mentalité qui est la leur. C'est de l'acide, c'est quelque chose qui est insupportable. Du vinaigre, on n'en boit pas comme ça, hein. Éventuellement dans la salade, et encore on la modère avec de l'huile, hein. Fait de la vinaigrette. Bon, je ne vais pas vous donner des recettes de cuisine ce soir, c'est très simple. Hein. Mais toujours est-il que c'est quelque chose qui est quand même difficile à supporter. Eh bien, si déjà sur le plan gustatif, nous ne supportons pas, alors le cœur, quand il est rempli d'amertume et d'aigreur, c'est quelque chose qui ne peut pas plaire à Dieu. Et parfois, nous sommes en contestation avec Dieu. Nous ne sommes pas d'accord avec lui. Et nous venons en disant, Seigneur, eh bien moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais est-ce que nous voulons laisser le Seigneur aussi faire ce qui est nécessaire, au fond de nous-mêmes? Alors, pour poursuivre, donc ce sont les soldats qui lui apportent ce vinaigre. Et il disait, naturellement, ils l'ont accompagné d'une parole aussi à leur tour, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » C'est toujours la même chose, comme nous l'avons dit tout à l'heure, « Si tu es... » Ça, c'est vraiment la parole de celui qui pourrait croire, mais qui n'est absolument pas disposé à croire. Oh. Ils étaient en faction, les soldats. Ils étaient là parce qu'on leur disait d'être là. Ils étaient de service, ils étaient en mission. Et puis, des condamnés, ils en avaient vu certainement quelques-uns. Hein. Parce que sur la colline de Golgotha, lieu d'exécution des sentences impériales, c'est certain qu'il a dû y en avoir quelques-uns qui ont défilé. Alors, un de plus ou un de moins, mais celui-ci, ce n'est pas le même. Jésus n'était pas comme les autres. Et ça va être dit, justement, qu'il n'est pas comme les autres. Alors, ils vont lui dire tout simplement, mais si tu es le roi des Juifs, ils se mettent de concert avec les magistrats, en quelque sorte. Et cette même parole, vraie pour dite par les magistrats, est dite aussi par les soldats de la même inspiration, c'est-à-dire une inspiration, permettez-moi de le dire, mais diabolique, tout simplement. Alors, sauve-toi toi-même. Et puis, il y a donc toute cette humiliation des railleurs, des moqueurs. On le voit quand il le dépouille, on en a touché deux mots il y a un instant, l'indifférence de la foule, la moquerie, l'ignominie publique. Parce que non seulement Jésus est pendu à la vue de tout le monde, les bras écartés pour que le monde entier le voie, sur une colline, une proéminence, un monticule, comme ça tout le monde le voit, mais ils ont été beaucoup plus loin que ça. Ignominie publique, on a mis une pancarte. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs ». En ce sens que on voulait le ridiculiser. Et on se moquait bien de ce qu'il pouvait être de toute façon. Mais comme il l'avait déclaré en réponse à une question, puisqu'on lui a dit « Tu es le roi des Juifs », il n'a pas dit qu'il était le roi des Juifs, il a dit « Je le suis », tout simplement. Alors on a saisi cette occasion pour dire « Eh bien voilà, il est le roi des Juifs ». Maintenant, ce qui est intéressant, c'est une attitude beaucoup plus positive de cet homme qui est crucifié à ses côtés. D'abord le premier, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Ouais. Les uns se moquaient, d'autres étaient indifférents, complètement et totalement. Et les soldats l'apostrophaient naturellement, mais lui l'injuriait. Alors c'est vrai que il était certainement à une place où il aurait pu avoir une autre attitude. Parce que s'il avait besoin de réfléchir à quelque chose, c'était de penser un petit peu à lui-même et peut-être de réfléchir sur son histoire, sur sa vie, sur son passé, sur peut-être la manière dont il avait mené son existence, si ses mains et son cœur étaient propres, parce qu'il ne lui restait peu de temps pour eh bien, régler ses affaires. Mais nous voyons que lui aussi, son cœur est rempli d'aigreur. Rempli d'aigreur probablement parce qu'il s'était fait prendre, s'était retrouvé en prison. Et puis maintenant, c'était la condamnation, l'exécution davantage. Alors on peut comprendre qu'il y ait de l'aigreur chez lui. Mais pourquoi injurier Jésus? Parce qu'ils étaient tous les deux, finalement, dans la même situation. Il l'injuriait, il disait, « N'es-tu pas le Christ ?» Alors là, c'est une question un peu différente. Les autres disaient, « S'il est, si tu es. » Mais là, « N'es-tu pas le Christ ?» C'est une forme d'interrogation pour voir comment Jésus pourra répondre. Qu'est-ce que Jésus va faire? Et vous savez que Jésus ne va pas répondre à cette question. Il ne va pas répondre à cette interrogation de cet homme qui profère des injures, mais c'est son ami de l'autre côté, qui est semblable, malfaiteur, qui va lui donner la réponse. Et Jésus répondra quand même, il répondra par le silence, mais un silence qui est rempli d'un témoignage qui parle plus que des paroles, qui parle plus fort et plus haut que des paroles. C'est l'attitude de douceur, c'est l'attitude de grâce que Jésus va avoir sans révolte. Et ce qui va interpeller le deuxième malfaiteur. Parce que vous savez que quelquefois nos silences vont beaucoup plus haut, parlent plus fort que tout ce que nous pourrions dire. Donc il n'y aura pas de réponse pour lui. N'es-tu pas le Christ? Alors sauve-toi toi-même et sauve-nous. Oui, mais être sauvé pour quoi faire? Parce que dans l'esprit dans lequel se trouve ce malfaiteur injurieux, qu'est-ce qu'il va faire de sa liberté retrouvée? Qu'est-ce qu'il va faire finalement de sa vie libérée? Si c'est pour recommencer, si c'est pour encore faire des méfaits contre la société, tuer, massacrer, voler, sauve-nous. Ah oui, mais le salut de Dieu, c'est pas pour être ce que nous avons été, c'est pour être autrement. Le salut de Dieu s'associe toujours à une transformation, à un changement. Et ce changement, ce n'est pas nous qui pouvons l'opérer. Il n'y a que Dieu seul qui fait son œuvre par l'Esprit Saint, à l'intérieur de nous-mêmes, par l'action de sa parole. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait. Pour que nous devenions véritablement semblables à celui qui nous sauve, c'est-à-dire être à la ressemblance de Jésus. Alors sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre l'entendait, et l'autre malfaiteur, il le reprenait en disant, mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Eh oui, cet homme aurait dû avoir des sentiments peut-être un petit peu plus modérés, et peut-être même avoir, dans ces instants, vous savez, quand on est, je ne sais pas, moi je ne suis pas passé, vous n'y êtes pas passé, mais quand on est à l'article de la mort, quand on sait que c'est inéluctable et que les choses, c'est une question de minutes, une question d'heures, peut-être éventuellement de jours, je pense que ça devrait pouvoir améliorer peut-être notre manière de penser, notre manière de réagir. Loin s'en faut, parce que certains se révoltent devant la mort et deviennent abominables, deviennent injurieux, deviennent encore peut-être plus méchants, comme s'ils avaient quelque chose à revendiquer encore une dernière fois. C'est terrible cela, hein, à l'article de la mort, à l'article du départ. Donc, il va lui dire, mais ne crains-tu pas Dieu? Et je crois que dans les paroles de ce condamné repenti, on peut peut-être dire ça comme cela, eh bien, il est en train de faire la leçon à son collègue, à l'autre malfaiteur, en disant, mais est-ce que tu n'aurais pas à ce moment-là, ce moment ultime de ta vie, un peu de respect, un peu de crainte, au moins? Un homme endurci, un homme entêté, un homme obtus, qui ne veut même pas capituler. Et il lui rappellera, mais tu subis la même condamnation. Alors je ne vois pas pourquoi tu t'en prends à ce Jésus de Nazareth. Il est comme nous. Il devrait y avoir une solidarité dans la souffrance et dans cette terrible condition humiliante de la condamnation, de l'exécution. Il ajoute ceci, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Qu'est-ce qui a pu opérer ce changement chez ce malfaiteur? Qu'est-ce qui a pu l'interpeller pour... Parce qu'il ne devait pas être meilleur avant que le précédent. Eh bien, moi, je crois que c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. C'est l'attitude même silencieuse de Jésus dans la souffrance, dans la mort, et devant tout ce qu'il subissait. Ouais. Ça, je crois que c'est l'évangile qui est prêché. Jésus avait prêché l'évangile en disant beaucoup de choses. Mais là, sur la croix, il va prêcher l'évangile, le royaume de Dieu. Il va prêcher le sermon sur la montagne. Il va prêcher ce que l'on appelle les béatitudes dans ce qu'il peut y avoir de merveilleux. Et il va le vivre. Il le vit, c'est une prédication. Et ce malfaiteur n'est pas fou, il se dit, mais comment peut-on supporter ce que cet homme, qui est innocent, puisqu'il nous est dit, mais il n'a rien fait de mal, donc il le reconnaît. Comment peut-on supporter une ignominie, une honte, une souffrance indicible comme il l'a subi, comme nous la subissons tous ensemble, et que quelque part il n'y a pas un juron, il n'y a pas une malédiction qui sort de sa bouche. Au contraire, il demande le pardon à son père. Père pardonneur. Et je crois que cet homme, à ce moment-là, qui devait être un endurci, qui devait être un dur, un mécréant, un malfaiteur, puisque c'est les mots qui sont employés, son cœur va complètement chavirer d'un instant à l'autre. Et il va reprendre. Il va dire, mais c'est justice. Ouais, vous savez, la conversion, c'est d'abord la reconnaissance de notre culpabilité. Ouais. Et c'est ce qu'il est en train de faire, cet homme. Il est en train de passer dans cette phase de reconnaissance. Oui, j'ai perdu ma vie. Oui, j'ai fait des choses abominables. Oui, j'ai peut-être pris la vie à d'autres. Je suis un meurtrier, je suis un criminel. J'ai été sans égard, peut-être devant celui qui me demandait grâce. Et je n'ai pas fait de quartier. Et là, à ce moment-là, c'est comme un flash qui lui revient, comme le film, on pourrait dire ça, de sa vie, et qui lui revient là en pleine figure, en quelque sorte, et qui se dit, mais quel homme j'ai été! Le mal que j'ai pu commettre, il n'en avait pas pris conscience jusqu'à cet instant, mais là, il est en train de réaliser, en raison de ce qu'il voit, et peut-être dans sa grande douleur, il est en train de tourner la tête vers Jésus, il le regarde, il le voit souffrir, il le voit vivre ces derniers instants, Et je crois qu'il voit non seulement un visage de douleur, mais il voit un visage de sainteté, comme une transfiguration qui transparaît à ce moment-là. Au sein même des souffrances les plus indicibles, des souffrances indicibles. Alors il dira, mais pour nous c'est justice. Et quand un homme commence à reconnaître la justice, alors à ce moment-là il est déjà sur la bonne voie. Et il le dit, non seulement il la reconnaît au fond de son cœur, mais il le confesse. Il le dit, il appelle son collègue, le condamné d'à côté, à regarder dans ce sens. Et il dira, mais nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Vous savez, quand vous questionnez les gens qui sont en prison, il y en a très peu qui disent qu'ils sont en prison ils le sont par erreur. Tout le monde est innocent. Bon, s'ils le sont en prison, c'est parce qu'il y a eu certainement un jugement. Hein. Ils ne sont pas tous innocents, mais les gens ont du mal à avouer leur culpabilité. Et ça, c'est quelque chose de terrible. C'est ancré dans le cœur de l'âme de dire, eh bien voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et si je suis en prison, si je suis condamné, si j'ai cette amende, si j'ai cette peine, eh bien parce que je le mérite. Oui. Vous ne croyez pas que la conversion, c'est ce que nous avons vécu à un moment ou à un autre, et que nous avons reconnu honnêtement que voilà, nous étions perdus, et que si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, nous appartenons au Seigneur, c'est que Dieu nous a fait grâce. Il ne nous a pas fait tout simplement parce que nous aurions fait quelque chose de supérieur qui nous aurait donné la faveur de Dieu, mais c'est parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a fait grâce, il nous a absous de nos péchés, parce que nous avons reconnu. Et ce qui fait que nous sommes des gens libérés et affranchis de ce jugement et de cette condamnation de Dieu. Et c'est ce que cet homme est en train de prendre conscience quand il dira ceci, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Alors que nous, si nous sommes là, nous payons le prix. Et il est que justice que nous le payons. Mais ce qui est extraordinaire lorsque nous sommes confrontés avec ce genre de situation, c'est que quand nous sommes prêts à payer le prix de nos forfaits, de nos erreurs, de nos sottises, du mal que nous avons commis, Dieu se lève et nous dit, puisque tu le reconnais, moi je te gracie, je te fais grâce, je t'absous. Tant que nous disons, mais je suis mieux que les autres, c'est ce que Jean écrira dans son épître, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur. Alors Dieu ne peut pas intervenir. À partir du moment où nous reconnaissons et que nous avouons notre faute, comme David l'a fait, vous savez, c'est un exemple, David. Eh bien, à ce moment-là, Dieu se lève et nous dit, bien, voilà, puisque tu le reconnais, ben maintenant je te fais grâce. Vous savez, si, lorsque quelqu'un passe au tribunal et qu'il reconnaît, qu'il plaide coupable, vous savez qu'il sera jugé moins sévèrement. Mais s'il dit et que les juges ou les jurés sont convaincus qu'il est coupable et qu'il continue à dire qu'il est innocent, je peux vous dire que s'ils ont les preuves, ça va être la peine maximum. Hein. Il n'y a rien à faire à ce moment-là, parce que non seulement il y a un forfait, il y a quelque chose qui est condamnable, mais en plus c'est un menteur. Et à partir du moment où on avoue, eh bien le Seigneur nous fait grâce, mais il faut avouer. Et cet homme est en train de passer par cette phase de reconnaissance de sa culpabilité, et le travail va se faire, un travail de repentance. Et on va le voir sous quelle forme ça se produit. Et il dit à Jésus à ce moment-là, il va s'adresser à Jésus à côté de lui, il va lui dire ces mots tout simples. Souviens-toi de moi, mais il y a vraiment l'esprit de la repentance. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le règne de Jésus est très proche. Le règne de Jésus va venir ici quelques instants. Et cet homme a la perception, il a la compréhension, il a l'intelligence de Dieu, parce que Dieu ouvre l'intelligence des gens. Le péché, le mal, l'endurcissement, l'entêtement, eh bien, ne font que nous voiler l'intelligence morale et spirituelle, l'intelligence spirituelle. Et cet homme est en train de s'ouvrir à une nouvelle lumière, lui l'homme des ténèbres, l'homme du crime, l'homme de l'ombre. Et là, à ce moment-là, il va dire simplement, les mots lui sont inspirés probablement, « Souviens-toi de moi. » Comment peut-on se souvenir d'un homme qui a fait du mal? On aurait tendance à l'oublier très vite. C'est un mécréant. Mais il le dit quand même, il ose le dire à Jésus, « Souviens-toi de moi. » Oui, tu ne te souviens plus de mes forfaits, de mes fautes, mais de ma vie, de mon âme. Souviens-toi de l'éternité, de mon éternité, quand tu viendras dans ton règne. Voilà quelqu'un qui rentre in extremis. Il pousse la porte, il bouscule, mais il a raison de bousculer. Vous savez qu'il n'y a que, Jésus le dira, il n'y a que les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors nous le voulons, nous ne le voulons pas. Véritablement, visiblement, le premier ne voulait pas rentrer. Hein. On ne rentre pas avec des injures et de la révolte. Ce n'est pas possible, de l'aigreur, de l'amertume dans son cœur. On ne peut pas rentrer dans le royaume de cette manière. Et le deuxième, oui. Parce qu'il pressent qu'il y a quelque chose qui est imminent, qui va arriver. Une nouvelle terre, un nouveau monde, et il veut en faire partie. Le monde d'avant, c'était un monde dans lequel il a trop connu. Hein, il a vécu toutes sortes de choses. Il s'est battu, il a fait la guerre, il a fait toutes sortes de choses. De ce monde-là, il n'en veut plus. Mais il veut de celui qui vient, ce monde de Jésus, le royaume de Dieu. Alors Jésus lui a répondu cette parole qui est une véritable consolation et qui met à mal la fausse doctrine du purgatoire. Je tiens à le dire. Oui, vous avez entendu parler du purgatoire? Ah oui. Eh bien, vous allez avoir la preuve que ça n'existe pas. Et j'ai quand même du mal à comprendre que les théologiens aient pu soutenir une telle chose. Jésus lui répond, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est pas demain. Lorsque tu auras peut-être après avoir été un petit peu exposé à certaines souffrances, certaines douleurs, hein, de ce prétendu endroit qui n'existe pas, eh bien là, peut-être après quelques années, quelques siècles, alors à ce moment-là, tu rentreras, tu auras été purifié. Non, c'est aujourd'hui même, le salut s'accomplit aujourd'hui. Pour quiconque croit, il y a une parole qui est une des plus belles paroles de la Bible, qui doit être au cœur même de l'évangile que nous prêchons. Il nous est dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Il n'y a pas de délai. Il sera sauvé. Seigneur, sauve-moi. Et nous sommes sauvés. Et nous sommes sauvés parce que nous le croyons. Nous croyons que Jésus a pris notre place, qu'il a fait l'expiation de nos péchés et qu'il nous donne aujourd'hui la vie nouvelle et la vie éternelle. Alors si je l'invoque, et cet homme a vraiment bien compris ce que cela signifiait, puisqu'au dernier moment, alors qu'il était à l'extrémité de sa vie, il dit « Mais souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne », Jésus lui dit « Réponds, mais aujourd'hui, tu seras avec moi dans ton règne. » Il va perdre la vie aussi cet homme. Mais il la retrouvera dans une autre dimension, mais une vie qui n'aura plus rien à voir avec celle qu'il abandonne. Enfin, qu'on lui fait abandonner par la crucifixion. Et je termine. Il était déjà environ la sixième heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Encore une des sept paroles de la croix. « Je remets mon esprit entre tes mains. » Vous avez remarqué quelque chose? C'est que Jésus n'a pas dit « Je remets mon âme. » « Je te remets mon âme. » C'est mon esprit, la dimension vers laquelle finalement Jésus se dirige. Et il emmène son compagnon d'à côté dans cette dimension spirituelle. C'est mon esprit. Et je voudrais simplement terminer sur la suite. Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, le capitaine qui était chargé de manier, de manœuvrer un peu cette petite troupe de soldats, voyant ce qui était arrivé, lui aussi il a vu. Alors comme quoi on peut voir à la manière du premier malfaiteur qui injurie, on peut voir à la manière du second qui se convertit. Et cet homme qui était au pied de la croix, lui il était en dehors de tout cela, mais il était quand même là. Il nous est dit que, voyant ce qui était arrivé, cet homme, ce Romain vraisemblablement, ce païen, glorifiait Dieu et dit certainement cet homme était juste. Dans un autre texte, dans un autre évangile, il nous est dit « Mais assurément cet homme est le Fils de Dieu ». Alors, pour terminer simplement, mais une interpellation, mais dans quel camp? Dans quel camp nous mettons-nous? Quelle position est la nôtre vis-à-vis de Jésus? C'est ça le message de l'évangile. C'est ça le message de Pâques. Quelle est la position qui est la nôtre? Est-ce que c'est dans une opposition active, telle que les magistrats ou les soldats? Est-ce que c'est dans la passivité, en disant « on verra bien », cette foule indolente qui est en train de regarder, elle est là comme un spectacle. On l'a vu, je l'ai souligné tout à l'heure. Ou est-ce que c'est un choix résolu pour Jésus, comme nous le montre le verset 47. Il nous est dit que ce centenier a glorifié Dieu et il a dit cette parole. Certainement, cet homme était juste. Est-ce que pour nous, Jésus est juste? Est-ce que pour nous, Jésus est sauveur? Est-ce que, véritablement, nous croyons qu'il est celui qui a pris notre place à la croix du calvaire? Et qu'en raison de cela, parce que je le crois, je suis absous. Il m'a racheté. On lui donne un nom. Dans cette notion de rachat, on l'appelle le Rédempteur. C'est ça, Pâques. C'est ça le message de Pâques. Et néanmoins, si je reviens à cette foule indolente, il nous est quand même dit qu'ils étaient venus voir le spectacle. Et quand ils ont vu ce qui était arrivé, ils s'en sont retournés se frappant la poitrine. Alors on peut certainement se frapper la poitrine. On peut peut-être être touché d'une commisération pour celui qui souffre. On peut être interpellé, mais ce n'est pas le geste qui sauve. C'est la foi en Jésus. Je pense que ces gens, à ce moment-là, ont pris conscience. Quand Jésus a prié pardonneur parce qu'ils savent ce qu'ils font, à ce moment-là, ils ont compris ce qu'ils faisaient. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tué. Ils ont crié pour qu'ils soient bien morts. Ils ont crié, ils se sont moqués, ils se sont mis derrière ceux qui étaient des injurieux, ceux qui étaient remplis d'aigreur, ceux qui étaient remplis de vinaigre, de vin aigre en quelque sorte, un cœur rempli de cette médiocrité, de cette révolte. Alors ils se frappaient la poitrine. Et tous les autres, tous ceux qui connaissaient Jésus, oui, parce qu'il y en a qui le connaissaient et qui le connaissaient bien. Et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement à regarder ce qui s'est passé. Alors je crois que, pourtant c'était des disciples, et ils se tenaient dans l'éloignement. Je pense que ce message est un message de rapprochement. En tous les cas, le malfaiteur dont nous avons parlé, le malfaiteur repenti, lui s'est rapproché de Jésus. Et il a tellement été si près que Jésus lui a dit, mais aujourd'hui tu seras avec moi, on ne peut pas être plus près. Dans cette immensité de ce paradis céleste, de cette dimension du royaume de Dieu, du royaume des cieux, on ne peut pas être plus proche. Eux, ceux qui étaient restés sur la terre, en tous les cas, ils se tenaient dans l'éloignement. C'est une leçon pour chacun d'entre nous, parce que Pâques, la croix, c'est certainement le plus beau et le plus grand de tous les messages que le monde n'ait jamais reçu. Et c'est un message de salut. Et je ne vous dis pas, parce que nous n'avons pas le temps de prolonger, mais une chose qui est certaine, c'est qu'après la mort, vient la vie. Après la Pâque, c'est la résurrection, c'est la vie nouvelle, et c'est ça le message de l'Évangile. Pour chacun d'entre nous, nous avons besoin d'être rafraîchis, nous avons besoin d'être retrempés dans cette conception, et nous avons besoin de le porter autour de nous. Et tous ceux qui veulent rentrer, même in extremis, à la dernière minute, à la dernière seconde, la porte est encore ouverte, mais il faut faire le pas, il faut faire le geste, il n'y a qu'une chose, c'est de reconnaître en Jésus notre Sauveur, de se repentir, et tout simplement, de lui demander d'être avec lui. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir parce que nous croyons que là où est prêchée la croix, il y a toujours l'action du Saint-Esprit. Là où le nom de Jésus est prononcé, il y a toujours la vie. Là où il y a véritablement des cœurs, quel que soit, en effet, eh bien, la vie que nous avons menée, les choses que nous avons faites, les choses que nous avons dites, aussi horribles soient-elles, si nous nous tournons vers toi, et si nous écoutons ce message de l'Évangile, si nous regardons et que nous pénétrons dans le témoignage que Jésus nous laisse, un témoignage d'amour, un témoignage de pardon, un témoignage de grâce, alors à ce moment-là, nous pouvons être véritablement ton fils et ta fille. Nous devenons des enfants de Dieu, et nous ne sommes pas nés de la chair, avec toutes ses aigreurs, avec toutes ses amertumes, avec toutes ses révoltes, avec toutes ses contestations. Nous sommes nés de la vie de l'Esprit de Dieu, une vie spirituelle. Parce qu'à ce moment-là, nous pouvons toujours dire, Seigneur, eh bien, je te remets, c'est vrai, mon corps, je te remets mon âme, mon cœur, et Seigneur, je te remets mon esprit entre tes mains, pour que tu me sauves, pour que tu me délivres, pour que tu me fasses tout le bien, et que moi, à mon tour, je fasse le bien autour de moi. Alors nous voulons te remercier, parce qu'en effet, être avec Jésus, ici-bas, ou être avec Jésus dans la dimension céleste, c'est véritablement le bonheur parfait et éternel. Merci Jésus, tu nous bénis les uns et les autres. Remplis-nous, Seigneur, de la vérité de ce message. Donne-nous l'amour de la vérité et remplis nos cœurs de l'esprit de vérité pour que nous fassions comme cet homme. Eh bien, Seigneur, te demander d'être avec toi dans ton paradis. Merci, Seigneur. Amen.